Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On en compte près de 180 sur Terre, certains sont spectaculaires, comme celui que l'on peut contempler près de Flagstaff aux États-Unis. D'autres sont invisibles mais ont déjà provoqué l'extinction massive de millions d'espèces vivantes par le passé. Il s'agit évidemment des cratères d'impact. Que nous apprennent ces reliques de collision avec la Terre? Quels sont les plus récents? Doit-on craindre à nouveau la chute d'astéroïdes sur notre planète? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder dans cette émission en compagnie du planétologue Sylvain Boulet du laboratoire IDS, maître de conférence à l'université Paris Sud. Sylvain Boulet, bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, donc on compte 180 cratères d'impact sur Terre, c'est un nombre qui est quand même assez important, mais personnellement, moi, j'en ai jamais vu. Comment on reconnaît un cratère d'impact du premier coup d'œil? Et est-ce que les 180 qui existent sont visibles?
Alors en fait, c'est très difficile finalement de reconnaître un cratère d'impact du premier coup d'œil parce que longtemps, historiquement, un cratère d'impact, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une grande dépression et géologiquement parlant, on pourrait très bien confondre ça finalement avec une caldeira d'un volcan ou tout simplement un effondrement de terrain. Et donc, il a fallu vraiment beaucoup de temps pour comprendre l'origine de ces cratères et c'est que dans les années 60 qu'on a enfin compris l'origine de ces cratères d'impact. Donc évidemment, il y a des indices, mais ces indices, il faut les chercher, ils sont pas simples à trouver. Et donc, naturellement, bah, d'un coup d'œil, on ne peut pas savoir que c'est un cratère d'impact.
D'ailleurs, on peut constater qu'évidemment, quand on parle cratère, quand on pense cratère, on pense Lune immédiatement. Et sur la Lune, on a mis du temps à concevoir que c'était effectivement un corps qui avait été percuté.
Bah, tout à fait. En fait, si vous reprenez les écrits de la fin du 19e siècle, globalement, beaucoup de scientifiques pensaient tout simplement que tous les cratères, étaient justement des volcans liés à des éruptions volcaniques. Et on voit des schémas tout à fait explicites, avec notamment le piton central, où les astronomes pensaient que c'était tout simplement un volcan et que toute la couronne autour, c'était des éjectats éjectés par le volcan. Et donc finalement, vraiment le cratère d'impact, on a commencé à savoir un petit peu ce que c'était justement à partir du météore cratère dans l'Arizona, où Barringer, en début du 20e siècle, a associé une météorite avec le cratère d'impact. Lui a essayé de montrer ça, finalement ça n'a pas du tout fait l'unanimité à l'époque, et il a fallu attendre dans les années 60 pour montrer que avec les cratères d'impact, il y avait des minéraux choqués de très haute pression et qu'à ce moment-là, effectivement, ça montrait qu'il y avait eu un choc très important. Et c'est qu'après, finalement, qu'on a vraiment compris à l'unanimité que ce soit sur la Lune ou sur Mars ou sur tous les corps solides, qu'il y avait des cratères d'impact.
Alors, c'est vraiment étonnant ce que vous racontez parce qu'effectivement, le météore cratère, donc c'est celui dont je parlais en introduction, qui aux États-Unis, qui est quand même assez spectaculaire et magnifique. Aujourd'hui, vous montrez ça à quelqu'un, vous dites « oui, ben c'est un cratère d'impact ». C'est étonnant de se dire qu'il y a encore moins d'un siècle, on voyait ça comme un volcan. Il y a une vraie révolution des idées, en fait.
En fait, il y a une révolution des idées. Pourquoi? C'est très simple, c'est que quand on voit un trou de, imaginez, pour météore cratère de plus d'un kilomètre de diamètre, le premier réflexe est de se dire qu'il est tombé un objet de 1 km de diamètre pour faire ce trou-là. Et évidemment, au début du 20e siècle, on s'est dit, mais où est la météorite d'un kilo? Barringer trouvait des petits morceaux de météorite et personne ne comprenait pourquoi que de tout petits morceaux puissent faire une si grande cavité. Et c'est évidemment bien plus tard qu'on a réalisé que tous ces objets qui pouvaient arriver sur Terre arrivaient avec une vitesse folle et que par conséquent l'énergie libérée au moment de l'impact était extraordinaire et que finalement un objet typiquement de 1 km pouvait faire un trou d'à peu près 20 km de diamètre.
Donc en fait en réalité un cratère d'impact c'est pas une pierre qu'on lancerait dans la boue, c'est plutôt une espèce d'explosion atomique, ça libère une énergie considérable.
C'est exactement, c'est une explosion en fait. C'est une explosion et du coup toute l'énergie est concentrée en un point et tout est libéré d'un coup et à ce moment-là va tout casser sur son passage. Il va y avoir une onde de choc qui va être vraiment très importante, qui va vraiment casser, fondre les roches et les éjecter aux alentours. Et effectivement, pour les plus gros cratères, les effets peuvent se sentir sur des milliers de kilomètres à la ronde.
Alors justement, restons finalement sur le météore cratère qui donc visuellement est vraiment... le cratère typique d'une certaine manière. Comment les planétologues et les spécialistes finalement de ces cratères d'impact ont réussi à convaincre qu'il ne s'agissait pas de volcans? Quelles sont finalement les preuves géologiques de l'existence passée d'un impact?
Alors, donc effectivement, on a mis longtemps à comprendre parce que finalement, pour voir les preuves, il faut regarder les roches finalement, alors à l'échelle macroscopique, peut-être un peu sur le terrain, il y a quelques indices, ou éventuellement à l'échelle microscopique. Donc il faut prendre des roches, il faut les mettre en lame mince et observer si les roches ont été choquées.
En lame mince, c'est-à-dire il faut faire des tranches de...
Voilà, il faut faire des tranches de roches très très fines, et après qu'on observe au microscope ou avec avec différents instruments de mesure. Et du coup, alors il y a, on va dire, deux grands critères, deux grandes choses qu'on cherche à chaque fois qu'on trouve un cratère d'impact. Il y a ce qu'on appelle les shatter cones. Les shatter cones, c'est quelque chose qu'on peut voir sur le terrain, mais qui ne sont pas toujours visibles et qui sont assez difficiles à trouver. Ces shatter cones, ce sont des cônes de percussion. Alors, ça envoie des espèces de cônes striés sur le terrain. Et ce sont en fait des fractures qui se forment à de très, très grandes pressions qu'on ne trouve qu'en contexte d'impact. Et donc, si vous trouvez ces espèces de cônes striés, eh bien, on est à peu près sûr déjà que c'est un cratère d'impact. Ça, c'est au niveau macroscopique. Au niveau microscopique, globalement, quand un cratère d'impact vient choquer les roches, bien, par exemple, typiquement, le quartz va se modifier. Alors, peut se modifier tout simplement. Il peut y avoir des espèces de fractures qui font bouger le cristal de quartz. Et du coup, il va y avoir des espèces de lignations qu'on appelle des PDF. Bon, c'est le terme technique. Et aussi, eh bien, les cristaux de quartz peuvent fondre, garder la même composition chimique, mais proposer d'autres phases cristallines, en fait, du quartz et se transformer, par exemple, en ce qu'on appelle la cohésite.
Alors, est-ce que c'est à partir de ces deux critères que vous avez exposés, qu'on peut découvrir des cratères qui, finalement, à l'œil, ne sont pas si évidents? Vous êtes allé récemment en expédition dans un pays d'Asie centrale pour voir un cratère, peut-être, hein, Karakul, je crois. Finalement, si nous montrions une image satellite de ce cratère, finalement, c'est un lac, tout simplement, un peu tarabiscoté, on n'y voit pas vraiment un cratère. Vous cherchez ces indices et on peut, du coup, découvrir des cratères qui ne sont pas visibles de façon immédiate par ces indices géologiques et chimiques?
Alors, tout à fait. En fait, bon, la première chose qu'on peut faire, c'est regarder avec une image satellite. Effectivement, le côté, si on voit une belle dépression circulaire, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, et aller sur le terrain, parce que effectivement, depuis l'espace, c'est difficile de vraiment trancher. Et donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de cas comme ça où des scientifiques ont dit ah ben un beau cratère d'impact, et puis ils ont essayé de montrer qu'il y avait des preuves, ils les ont pas trouvées. Du coup, c'est resté finalement une formation dont on ne connaît pas forcément l'origine, ou volcanique ou autre. Quand on va sur le terrain, effectivement, eh bien, on essaye de trouver ces preuves. Donc, la preuve macroscopique, donc les shatter cones, si on en trouve sur le terrain, c'est une grande découverte, parce que du coup, c'est quand même un indice très très fort qu'on peut trouver directement. Et puis, bah, sinon, le gros travail se fait quand même en laboratoire, c'est-à-dire qu'on essaye de ramener un maximum de roches et d'essayer de les étudier. Un autre critère aussi qui est assez important et qu'on retrouve quand même dans une grosse partie des cratères d'impact, ce sont les brèches d'impact. Ces brèches d'impact, ce sont des roches finalement qui se sont complètement fracturées, et à un moment donné, il y a eu énormément de fragments qui se sont soulevés un petit peu, qui sont retombés dans une gangue un peu fondue ou sédimentaire qui revient après. Et du coup, on a une espèce de bloc de roche avec plein de fragments, et ça, c'est vrai qu'on en observe aussi très souvent dans les cratères d'impact.
Et finalement, on peut aussi penser aux météorites, tout simplement. Est-ce qu'on en retrouve souvent, ou est-ce que c'est rare de retrouver finalement un reste de l'impacteur?
Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'en fait, quand l'objet de plusieurs dizaines de mètres, centaines de mètres, voire kilomètres arrive, naturellement, s'il est très très gros, l'atmosphère n'aura aucun effet sur sa trajectoire. Et donc, prenons un objet de 10 km, s'il arrive à la surface avec la même énergie qu'il est arrivé quand il est rentré dans l'atmosphère, globalement, au moment de l'impact, il va complètement se vaporiser tellement la pression a été forte. Et donc, pour les très gros cratères, on a très peu de chances de trouver des météorites. Dans certains cas, pour les, on va dire, les un peu plus petits, par exemple, je sais pas, moi, un objet d'une cinquantaine de mètres, l'objet va quand même freiner un petit peu, et du coup il va perdre en énergie, et du coup l'impact va être un tout petit peu moins fort. On va faire quand même un cratère d'impact, mais il va rester des débris de météorites. Et à ce moment-là, pour les cratères, de la taille, on va dire, de quelques dizaines de mètres à éventuellement quelques kilomètres, on peut retrouver des météorites. Et puis après tous les petits cratères là, on peut retrouver parce qu'effectivement le choc a été moins important. Donc il faut garder ça à l'esprit que pour les très très gros, il y a très peu d'endroits où on peut trouver à la fois des météorites et des gros cratères d'impact.
Et d'ailleurs parfois on trouve les météorites et on n'a pas le cratère d'impact. La démarche inverse existe. Je crois que récemment il y a eu une expédition au Maroc. On connaît des champs de météorites. On se dit est-ce que le cratère existe, est-ce qu'il n'existe pas? Vous avez participé, je crois, à ce genre d'expédition récemment?
Tout à fait. On a fait une expédition au Maroc où justement une équipe russe, il n'y a pas longtemps, a trouvé justement des shatter cones sur le terrain, donc montrant qu'il y a eu un très gros impact, un très gros choc. Et quand on regarde sur les images satellites, aucune structure d'impact, aucune formation, aucune dépression. Du coup, où est passé ce cratère d'impact? Et au même endroit, alors chance ou pas, l'étude nous le dira dans les prochains mois, mais au même endroit, il y a des météorites. Et donc, on pense certainement que ces météorites sont peut-être dissociées du cratère d'impact, parce que c'est finalement, on a ça nulle part ailleurs, des shatter cones et en même temps des météorites. Donc, il va falloir l'expliquer. Mais c'est vrai que ces météorites, on peut en trouver à des endroits où finalement on ne voit rien. Ou aussi également les cratères d'impact. On en a le plus bel exemple en France. On a le cratère de Rochechouart, qui a quand même une belle structure de 20 km de diamètre à côté de Limoges. Et ce cratère d'impact, finalement, on ne voit rien.
Je ne l'ai jamais vu personnellement.
Voilà, et c'est vrai que ça, c'est assez étonnant parce que quand vous vous promenez sur le terrain à Rochechouart, si vous ne connaissez pas la géologie, vous ne savez pas qu'il y a un cratère d'impact. Et donc, la France a un cratère d'impact assez majeur et c'est vrai que tout simplement depuis 200 millions d'années ce cratère a disparu tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'érosion et en général comme au Maroc le cratère certainement a complètement disparu à cause justement de l'érosion fluviale, glaciaire ou autre. Donc il y a beaucoup de processus qui peuvent arrêter les cratères d'impact.
Il y a un autre cratère, enfin je ne sais pas si on peut parler de cratère, en tout cas un autre impact qui a fait beaucoup parler de lui, c'est celui qu'on imagine avoir eu lieu il y a 60 millions d'années. Je crois qu'il y a des indices d'impact au Mexique et on imagine que ça a causé la disparition notamment des dinosaures. Alors là c'est un cratère beaucoup plus gros. D'abord quelle taille fait-il et comment on découvre un cratère qui en plus en partie sous l'eau, je crois, non?
Alors c'est vrai que ce cas-là évidemment c'est le plus connu parce que c'est celui qui a fait disparaître les dinosaures, mais entre autres parce que cette fameuse extinction il y a 65 millions d'années, cette fameuse crise crétacé-tertiaire, il y a eu près de plus de 60% des espèces qui ont disparu, donc il n'y a pas que les dinosaures. C'est vrai que cette extinction était connue d'un point de vue géologique. Et grâce notamment aux données gravimétriques, grâce en fait aux perturbations gravitaires, en fait, on va regarder dans le sous-sol. Et c'est à ce moment-là qu'au niveau du golfe du Mexique, on a trouvé une formation circulaire. Et on s'est dit, il y a quelque chose ici qu'il faut aller voir. Et à ce moment-là, on s'est mis à faire des sondages pour aller extraire les roches en profondeur. Et c'est là qu'on a retrouvé les brèches d'impact notamment et tous les éléments qui montrent que c'était un cratère d'impact. On a pu le dater et on a pu montrer que finalement ce cratère était daté exactement au même moment que cette extinction à la crise cratérienne.
Donc c'est un sondage gravimétrique. On essaie d'estimer la densité des roches en sous-sol, c'est ça?
C'est ça, on va essayer de voir les variations de la gravité au niveau local. Et en fait, quand vous avez un cratère d'impact qui va se former, en général, on va excaver de la roche va s'enlever, et puis après, il va y avoir finalement des roches qui vont remplir le cratère d'impact. Et cette roche, finalement, au niveau gravité, vont avoir un autre signal que la roche aux alentours. Et donc, du coup, on va avoir un contraste de gravité qui va montrer finalement une formation circulaire.
Alors oui, c'est vrai que là nous parlons d'un cratère qui a eu lieu, un impact qui a eu lieu il y a 65 millions d'années, mais pour revenir un peu plus dans l'actualité, on a tous été témoins en février de cette année, en 2013, d'un spectaculaire événement au-dessus de la Russie où un bolide s'est désintégré. On avait rarement été témoins de cela. Alors on a compris, c'était pas quelque chose qui était susceptible d'anéantir la vie sur Terre. Cela dit, quand même, inquiétude, est-ce que ce genre d'événement est appelé à se renouveler? Enfin, est-ce qu'il y a un risque quand même d'impact? Parce qu'après tout, s'il était tombé sur une ville, ce bolide, il y aurait quand même des dégâts.
Alors, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri. De tels événements comme ça, globalement, on devrait en avoir 3 ou 4 par siècle. Donc, ce n'est pas énorme, mais on l'a vu. Là, évidemment, pour le cas de Chelyabinsk, la chute a eu lieu à côté d'une très grosse ville d'un million d'habitants. Et c'est vrai que la chance qu'on a eue, c'est que finalement, l'objet est tombé un tout petit peu à côté. Bon, l'explosion a provoqué quelques milliers de blessés. Mais c'est vrai que cet objet, par exemple... de Chelyabinsk faisait à peu près 15-20 mètres de diamètre. Et notre chance, c'est que c'était une simple chondrite, c'est-à-dire quelque chose, un gravat de plein de petits morceaux primitifs. Et donc finalement, la cohésion de ce matériel n'était pas très forte. Mais si vous aviez par exemple un objet de 20 mètres, un bloc de fer, l'objet ne se serait certainement pas fragmenté comme cette météorite-là. Et un objet de 20 mètres, eh bien, potentiellement, peut faire un trou à peu près un cratère de 500 mètres de diamètre. Plus les éjectats, le choc, évidemment, aurait été assez important. Et vous tombez, ça tombe sur une ville, il n'y a plus
de
ville,
évidemment.
Et c'est
possible, il peut tomber des blocs de fer sur Terre.
Et oui, tout à fait. On a 10 000 tonnes de roches extraterrestres qui nous tombent tous les ans sur Terre. Sur ces 10 000 tonnes, on a certainement, on va dire, peut-être 10%, hein, donc quand même que, pas mal, à peu près donc, 100 tonnes, hein, de 1 000 tonnes de roches de ferrite qui nous tombent sur la tête. Après, voilà, globalement, il y a certainement une grosse partie qui sont sous forme de micrométéorites, mais c'est vrai que quand ça arrive dans un seul bloc, eh ben, ça peut provoquer un gros cratère d'impact, effectivement.
Est-ce qu'on a une idée de la fréquence de ces impacts, en particulier est-ce qu'il y en avait plus avant? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus calme qu'à une certaine époque? Ou est-ce que finalement le taux d'impact sur une planète est constant au cours du temps?
Alors ça, c'est une bonne question, et on va notamment essayer d'y répondre avec le réseau d'observation qu'on est en train de développer, le réseau Fripon. Ça sera un réseau d'observation constitué de 100 caméras sur le territoire français, qui aura pour but justement d'observer tous les objets qui nous tombent sur la tête et d'essayer d'en prédire un petit peu le flux. Pour les petits objets, on va dire, en France, là, on s'attend à avoir globalement une dizaine de météorites de taille centimétrique ou décimétrique par an en France. Donc voilà, théoriquement, il y a 10 météorites, hein, 10 gros blocs quand même qui nous tombent sur la tête en France tous les ans. Après, les objets les plus gros, typiquement Chelyabinsk, hein, 15-20 mètres, c'est plutôt, on va dire, 3 à 4 pas tous les siècles. Et puis après, tous les objets, hein, je sais pas, par exemple, la taille pour l'impacteur qui a fait Chicxulub, hein, au Nouveau-Mexique, il y a 65 millions d'années, c'est plutôt 1 tous les 100 millions d'années. Donc, naturellement, voilà, plus l'objet est gros, plus c'est rare. Mais c'est vrai que des impacteurs quand même kilométriques, hein, il peut y en avoir quand même tous les millions d'années à peu près, tous les 5 millions d'années à peu près.
Alors là, on parle beaucoup d'astéroïdes. Y a une comète qui est passée très très près du Soleil, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est la comète Ison. Y a des questions qui ont surgi au moment du passage de cet objet près du Soleil, notamment sur le Twitter de Ciel Espace. Des gens nous ont demandé, mais cette comète, est-ce qu'elle peut pas percuter la Terre? Parce qu'il y a eu des petites déviations de trajectoire par rapport à ce qui était prévu à cause de son dégazage, je crois. C'est possible aussi ça, qu'une comète percute la planète?
Alors c'est totalement possible qu'une comète puisse effectivement rentrer en collision avec la Terre. Naturellement, quand même, aujourd'hui, on connaît bien les orbites des comètes, même si elles peuvent varier un tout petit peu justement à cause des forces non gravitationnelles. Ces forces non gravitationnelles vont donner des petites pichenaudes et ça ne va pas vraiment modifier complètement l'orbite. Et c'est vrai que par exemple pour la comète Ison, quand même, elle va passer à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de la Terre. C'est pas une toute petite pichenaude qui va vraiment la faire dévier. Si un objet devait passer à quelques dizaines de milliers de kilomètres et effectivement qu'il y avait cette petite pichenette, là peut-être ça pourrait poser problème. Mais des comètes, en fait, évidemment des morceaux de comètes qui en tombent tous les jours sur Terre, hein. Il faut savoir que toutes les fameuses étoiles filantes, globalement, ce sont des petits grains qui ont dégazé qui se retrouvent dans la queue des comètes, et la Terre rentre sans cesse, hein, dans ces nuages de poussière. Et ces nuages de poussière, en fait, non seulement c'est des petites particules millimétriques, mais quand même dans ce nuage qui est derrière la comète, il y a certainement des blocs quand même un peu plus gros et des blocs centimétriques ou décimétriques. On en a la preuve, hein, quand on observe la Lune, si on observe finalement la Lune par exemple toute une nuit, la probabilité est très très forte qu'en une nuit on observe un flash lunaire. Et ce flash lunaire, en général, on l'a montré, c'est que théoriquement ce sont plutôt des blocs centimétriques ou décimétriques qui tombent sur la Lune, qui vont fondre la roche, puisqu'on va avoir pareil une forte énergie, et toutes ces petites gouttelettes d'éjecta vont envoyer de la lumière vers la Terre et va faire un petit flash qu'on peut observer avec un télescope amateur.
C'est-à-dire que sur la surface non éclairée de la Lune, on peut de temps en temps observer des petits points comme ça qui s'allument.
Tout à fait. En fait, depuis plus de 5 siècles, les astronomes ont observé ces petits flashs lumineux très très courts, hein, de quelques dizaines, centaines de millisecondes qui apparaissent. Alors évidemment, depuis 5 siècles, les gens pensaient que c'était pareil, des éruptions volcaniques, des nuages ou autres. Et depuis 10 ans, en fait, on a montré que ces flashs lunaires étaient associés à notamment des pluies d'étoiles filantes, hein, notamment lors des Léonides de 1999 et de 2001. Et depuis, bah, voilà, on a montré que ces objets désymétriques bah, formaient certainement de nouveaux cratères d'impact. Alors à nous de les découvrir, on sait qu'il y a des impacts et on aimerait justement, avec l'imagerie haute résolution, eh bien, trouver la trace de ces petits cratères d'impact qu'on devrait être capable de localiser à la surface de la Lune.
Et ce sont des objets qui n'arrivent pas sur Terre à cause de l'atmosphère, en fait, finalement.
Alors voilà, ils arrivent, ces objets désymétriques, bah, certainement rentrent dans la haute atmosphère, mais une grosse partie finalement effectivement vont disparaître dans l'atmosphère. Mais c'est vrai que quand même, là on parle d'objets désymétriques journaliers sur la Lune, mais quand même dans la queue de la comète, on pense certainement qu'il y a des objets beaucoup plus gros, hein, des blocs de roche, hein, dans les comètes. Et ces blocs-là, bah, peuvent peut-être arriver aussi sur Terre. Et on a une question aujourd'hui vraiment fondamentale, c'est est-ce que dans nos collections de météorites, on a des morceaux de comètes ? Ça, on n'a pas la réponse pour le moment, mais on parle notamment des météorites carbonées, des chondrites carbonées, hein, par exemple la fameuse météorite d'Orgueil, hein, qui est tombée il y a bientôt 150 ans. Et cette chondrite carbonée, eh bien, il y a une forte chance que ça soit un morceau de comète. On ne l'a pas bien montré, mais aujourd'hui, on a certainement, eh bien, des morceaux de comète qu'on peut retrouver quand même à la surface de la Terre.
Alors, dernière question, finalement, ces cratères d'impact et ces objets qui nous tombent du ciel, on a beaucoup parlé de menaces, mais en fait, en réalité, on a compris qu'elle n'était quand même pas si importante. En réalité, en revanche, pour la science, on a beaucoup de choses à apprendre. Qu'est-ce que nous apprennent à la fois les cratères et ces météorites que l'on retrouve?
Alors c'est vrai que sur Terre, ces cratères, non seulement plus on connaît de cratères d'impact, plus ça va nous permettre de connaître un peu mieux le flux d'impact à la surface de la Terre, mais finalement quand on veut comprendre un petit peu l'histoire géologique de notre système solaire, c'est pas sur Terre qu'il faut regarder les cratères, ce sont sur les autres corps du système solaire, sur la Lune, sur Mars, sur tous les corps finalement avec une surface solide, où vous pouvez voir à ce moment-là des millions de cratères. Et effectivement, alors c'est un point important, c'est de regarder la différence entre la Terre et les autres planètes. La Terre, 180 cratères, et sur les autres, des millions de cratères.
Et pourquoi si peu ?
Alors justement, ça c'est une chose très importante. On fait le lien souvent à l'érosion de l'eau, du vent, mais en fait, finalement, la raison principale sur Terre de cette grande différence, c'est la tectonique des plaques. C'est-à-dire que sur Terre, on trouve très très peu de roches qui sont très vieilles, c'est-à-dire 3-4 milliards d'années. Et la Terre, finalement, est une planète active, et sa surface est finalement sans cesse renouvelée. Et donc, du coup, les cratères d'impact qu'on voit ne sont pas de très très vieux cratères d'impact. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ailleurs sur les autres corps ? C'est simplement que sur Mars ou sur la Lune, on a des terrains de 3-4 milliards d'années. Et finalement, le flux d'impact a été majeur, maximal, au début de la formation du système solaire, pendant à peu près 1 milliard d'années. Et une grosse partie des cratères d'impact qu'on voit sur les autres corps se sont formés il y a 3-4 milliards d'années. Du coup, c'est vraiment là l'enjeu scientifique. C'est-à-dire que quand on regarde une surface planétaire, plus une surface est cratérisée, plus elle est vieille. Et sur les autres corps, eh bien, comme sur Mars ou sur la Lune, eh bien, ce resurfaçage de la planète n'a pas eu lieu totalement, eh bien, on arrive à avoir accès à de très très vieux terrains, des terrains de 3-4 milliards d'années. Et en les étudiant, eh bien, on va pouvoir avoir les indices de ce qui s'est passé dans cette période primitive. C'est vrai que sur Mars, par exemple, on sait qu'il y a un grand nombre de cratères d'impact, mais on va regarder justement, par exemple, quel est le rapport entre les réseaux de rivières qui superpose ces cratères d'impact. Ça va pouvoir nous permettre de dater l'activité fluviale sur Mars. En regardant les cratères d'impact, par exemple, sur les satellites glacés, on va pouvoir voir s'il y a une activité de resurfaçage qui peut être liée, par exemple, à une des poches d'eau en dessous, en profondeur, ou ça ne peut nous donner une idée sur l'épaisseur de la glace. Donc c'est vrai que sur tous les corps glacés, on va pouvoir avoir des indices à la surface, mais aussi en profondeur, et ça va nous permettre vraiment de reconstruire globalement l'histoire géologique de notre système solaire.
Donc, si j'ai bien compris, la Terre, c'est une bande qui, magnétique qui aurait été effacée, une cassette effacée d'une certaine manière, et les corps du système solaire, eux, ont gardé l'impression et l'enregistrement de tout ce qui s'est passé depuis le début.
Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de faire les deux, parce que pour comprendre les cratères d'impact sur les autres planètes, il faut comprendre ceux qui sont sur Terre, puisqu'on a la chance quand même d'aller sur le terrain, de toucher cet objet géologique. Et finalement, ça nous permet de bien mieux comprendre ce qui s'est passé sur les autres corps. Mais c'est vrai que finalement, regarder sur les autres corps un peu les cratères d'impact, ça nous permet aussi de comprendre un peu mieux notre planète Terre.
Eh bien, merci beaucoup, Sylvain Boulet, d'avoir accepté notre invitation sur Ciel et Espace Radio. Je retiens donc qu'il existe un cratère d'impact de 20 km de diamètre en France, près de Rochechouart. Je rappelle à ceux qui écoutent Ciel et Espace Radio qu'un reportage consacré à la découverte récente d'un cratère d'impact au Maroc est publié dans le numéro de janvier 2014 de Ciel et Espace. À très bientôt à tous sur la web radio de l'astronomie. Thank you.